Yannick Hennel, bonjour.
Bonjour.
Francesca Melandri, bonjour.
Bonjour.
Yannick Hennel, vous êtes l'auteur de Cercle, de Yann Karski, de Renard Pâle, et vous publiez un récit qui s'intitule « Je cherche l'Italie ». Quant à vous, Francesca Melandri, c'est votre deuxième roman après Evador, et il s'intitule « Plus haut que la mer ». L'éditeur est le même dans les deux cas, c'est Gallimard. Yannick Hennel, en revanche, vous n'êtes pas italien, mais il se trouve que vous avez vécu en Italie, à Florence, entre 2011 et 2014. Comment vous êtes-vous retrouvé là?
Pour une raison très simple, qui est une raison amoureuse, c'est que ma femme
toujours
est italienne.
Bah, voilà,
c'est la
meilleure.
Plus belle des raisons. Ma femme est toscane. Et après pas mal d'années, on avait envie d'aller s'installer dans son pays. Et voilà, je pensais, moi, en bon français amoureux d'art et amoureux d'Italie, vivre une parenthèse enchantée, exclusivement consacrée à la contemplation d'œuvres d'art. Et ça a été ça pour moitié, et puis ça a été surtout le choc de la rencontre avec un pays dévasté politiquement et culturellement.
Et c'est ça que raconte « Je cherche l'Italie ». Vous avez pris le titre dans l'Énéide de Virgile. C'est à un moment dans votre livre, puisque votre narrateur raconte Énée après avoir abandonné Troie en flammes, fait naufrage sur une île. Et ses premiers mots sont pour demander son chemin. Il dit « Italiam quaero », « Je cherche l'Italie ». Le livre pose vraiment ces deux jalons-là, hein, un jalon très artistique, très positif, c'est l'Italie cliché, on va demander à Francesca Melandri ce qu'elle en pense. Et puis il y a l'autre partie de l'Italie que vous découvrez effectivement, de ce pays ruiné. Le livre est constitué de ces deux parties-là, Yannick Hennel.
Oui, au fond, c'est une expérience qui est le cœur même de toute expérience qu'on mène quand on cherche quelque chose, c'est-à-dire l'extase. Et puis de l'autre côté, la destruction des choses. Je dirais que c'est une Italie, celle que j'ai rencontrée, ou que j'ai cherchée du moins, qui est entre Fra Angelico et Lampedusa. C'est vraiment un pays de contraste, d'une violence inouïe, où moi j'ai retrouvé la peinture à fresque comme jamais je ne l'avais vue. Enfin, j'ai pu me consacrer à quelque chose qui relève, oui, de révélations lentes. Comme si la peinture en temps de crise, comme si la très ancienne peinture revenait, faisait retour. Et en même temps, effectivement, je n'ai cessé à Firenze, enfin à Florence, qui est pourtant une ville riche, je n'ai cessé de voir la dévastation à l'œuvre, enfin le capitalisme intégré dans ce qu'il a de pire, c'est-à-dire la manière dont il divise et détruit. Les rencontres, j'allais dire les seules véritables rencontres que j'ai faites sont des migrants qui venaient de Lampedusa et qui sont disséminés de manière mafieuse enfin, sur les côtes toscanes et qui, durant l'hiver, errent dans les rues froides de Florence. Et voilà, le personnage principal, je pense, même s'il est très discret dans ce livre de « Je cherche l'Italie », c'est un jeune Sénégalais qui, d'ailleurs, refusait de me parler en français, qui ne parlait qu'italien parce qu'il a des ordres, disons, d'intégration absolue. Et ce jeune homme, qui s'appelait Issa, qui est un musulman, était arrivé, très étrangement, parce que les Sénégalais ne prennent pas cette filière-là normalement, était arrivé par Lampedusa. Et il portait avec lui une sorte de désespoir très pudique. Et c'est quelqu'un avec qui je me suis mis à parler de littérature. Enfin, c'est quelqu'un qui m'a posé la question peut-être fondamentale, à la fois archaïque et fondamentale. Il m'a dit « Mais qui sont tes dieux ?» Question étrange au début du XXIe siècle. J'ai compris qu'au fond, il ne s'agissait pas de croyance, il s'agissait de protection. Qui te protège ? Qui sont tes dieux ? Moi, j'ai répondu « Mes dieux, c'est Kafka, Chrétien de Troyes et Dante. » Les trois littératures qui m'importent, la littérature allemande, la littérature française, la littérature italienne. Et il voulait savoir, Issa, si ces dieux-là étaient bien efficaces, si j'étais bien protégé. Et voilà, c'est un peu, je dirais, le cœur de la question pour moi de la rencontre avec l'Italie, c'est-à-dire la question de l'hostilité et de la faveur.
Hostilité, faveur, Francesca Melandri.
Hostilité, faveur, c'est très intéressant, mais je suis contente de dire qu'heureusement, nous les Italiens, on vit... presque tout et presque toujours, naturellement, pas tous et pas toujours, mais disons, en bon moyenne, ni dans le niveau de Fratangelico, de Bertangelico, et ni dans le niveau de l'horreur et de la dégradation et de Bunga Bunga de Berlusconi, duquel dans votre livre il fait beaucoup de citations. Je suis heureuse de le dire, parce que sinon il semble que la vie de tous les Italiens s'est déchirée entre ces deux excès et extrémités. C'est pas comme ça en Italie, c'est pas comme ça, je pense, aucune part. C'est toujours la vie réelle, c'est toujours ça. Mais je pense que cette décadence, qui est on peut pas la nier de l'Italie, je la trouve vraie. Je suis d'accord avec vous. La chose qui, comme italienne, naturellement, je pense, c'est que c'est vraiment, c'est pas la décadence de l'Italie, mais c'est, pour parler un grand mot, la décadence de l'Occident.
Absolument.
Et
oui.
Conflit avec entre notre tradition, l'humanisme, le siècle des Lumières et tout ça. Contre cet capitalisme de rapine, cet capitalisme de voleur, c'est la lutte d'aujourd'hui, je pense, pour nous, pour nous tous. Et je pense que ce n'est pas moins vrai en France ou en Allemagne ou en Angleterre. En Angleterre, ce qui se passe en Angleterre, c'est affreux de ce côté-là. Seulement, comme beaucoup d'autres fois dans l'histoire des hommes, en Italie, c'est plus évident. Alors ça a été presque toujours le rôle, si on veut, de l'Italie, de rendre très évident, très qu'on ne peut pas se raconter que ce n'est pas comme ça, les grandes tragédies, les grands conflits, et ça est aussi sa richesse, parce que c'est explicite. Alors, je trouve que la tragédie d'avoir eu un chef d'État comme Berlusconi a été naturellement affreuse, on a tout beaucoup souffri, mais c'est, si on voit au-dessus de la surface, en effet, c'était un Buffon qui faisait les mêmes choses qui Bush a fait, qui dans comme dit, dans la société occidentale, pas seulement dans la société occidentale, mais dans tout le monde, cette dégradation des rapports sociaux et l'argent comme mesure de toutes les choses. Mais ça, c'est vraiment pas seulement l'Italie. En Italie, c'était seulement plus explicite.
Et c'est bien pour cela que Yannick Enel a placé son récit sous les auspices des fresques d'Uccello, du Moïse de Michel-Ange, des livres de Georges Bataille, de l'Annonciation de Fra Angelico, de François d'Assise et de Giorgio Agamben.
Je ne sais pas si vous connaissez cette très belle anecdote qui raconte Forster quand il rencontre en Égypte, à Alexandrie, il rencontre le poète Cavafy. Et Forster raconte que Cavafy lui dit « Vous savez, vous les Anglais, vous devez comprendre une chose, nous, les Grecs, en tant que peuple, nous avons fait faillite il y a bien beaucoup d'années. Beaucoup d'années, nous avons fait faillite. Il y a eu une banqueroute du peuple grec. Je crois qu'on peut dire que dans ces siècles, tous les peuples d'Europe ont fait banqueroute, ont fait faillite. Il n'y a pas des peuples qui soient restés. Nous vivons dans l'époque où les peuples sont morts. Nous avons vécu la mort des peuples, on peut dire. Cela dit, je crois qu'il y a toujours quelque chose qui reste du peuple. Il ne faut jamais imaginer, c'est autre chose de ce qu'on imagine. Et Bergamine répétait toujours une phrase qui m'est restée toujours dans la mémoire. Il disait « El pueblo es siempre minoría ». Le peuple est toujours minorité.
Giorgio Agamben, philosophe italien au micro de Jacques Munier dans Des Avoines Nues sur France Culture. C'était une archivina de 1998. Il parlait de son livre de 1995, Moyens sans fin. Yannick Enel, vous parlez d'un texte de Giorgio Agamben où il parle de la faillite des peuples.
Eh bien, c'est exactement ce livre-là, ces Moyens sans fin, à l'intérieur duquel il a publié un extrait d'un journal qu'il a tenu, un journal italien. où il parle de l'exil de toute chose, la mise en exil, la mise en banqueroute, comme il le dit, de toute chose. Et précisément à la fois, ce que j'appelle, en lisant Agamben, qui est très présent dans mon livre, ce que j'appelle la mort du politique, mais aussi l'idée que précisément, comme l'a dit Francesca Melandri, le politique est peut-être le lieu qui, parce qu'il se tient entre la tradition culturelle, italienne, occidentale, et la dégradation, je dirais, par le capitalisme, est un lieu qui peut sans cesse renaître. C'est le lieu qui, précisément, comme dans toute la formule initiatique, les grandes formules vie, mort, vie, on en est au stade de la mort du politique. Je crois que c'est à peu près une évidence dans le monde occidental. Et même quelqu'un comme Agamben, qui est très sévère enfin, sur la question de l'avenir, dit dans ses livres qu'au fond, tout est là pour basculer dans une possibilité à nouveau populaire, ou communautaire, ou même de solitude.
Il n'y a pas d'autre chance.
Il n'y a pas d'autre chance.
Mais c'est ce qu'on retrouve. C'est ce qu'on retrouve dans vos deux livres, me semble-t-il, cette renaissance. Parce que Yannick Hennel, votre livre est comme une crise intérieure qui répond en écho à la crise sociale, politique, économique que vous découvrez en mettant les pieds donc en Italie, enfin que vous constatez gravement avec une tonalité tantôt révoltée, tantôt déprimée, il y a tout ça. Et en même temps, vous dites que c'est une expérience intérieure en temps de crise qui débouche sur une forme de renaissance permise par l'écriture de ce livre, peut-être, on y viendra, la force des mots, la force des choses, qu'on retrouve aussi dans votre roman à vous, Francesca Melandri, roman qui met en scène trois personnages, deux principaux, un homme, une femme, Paolo, Luisa. Paolo et Luisa viennent rendre visite l'un à son fils, l'autre à son mari, qui sont tous les deux détenus sur une petite île où on a installé un quartier de haute sécurité, la prison de haute sécurité pour détenus particulièrement dangereux. Le fils de Paolo est un ancien terroriste révolutionnaire détenu pour homicide et le mari de Luisa est enfermé parce qu'il a tué de ses mains un compagnon de beuverie. Et vous les mettez en scène avec un troisième personnage qui est très important, qui est un agent carcéral, Niti Pierfrancesco, qui est sur cette île. Et cette île-là montre à la fois une crise très profonde entre pour ces personnages-là qui sont en prise avec la violence de l'environnement et qui vont tenter de trouver par le silence, par les sens, par l'odorat, par la vue de cette île très belle, qui vont tenter de trouver une forme de douceur. Et la douceur des personnages dans votre livre, ce qu'ils trouvent entre eux, répond à la solitude positive que vous avez, vous, découverte, Yannick Hennel. Francesca Melandri.
Il y a un souvenir que le personnage de Paolo, qui est cet enseignant de histoire et philosophie au lycée, sa femme est morte, elle est morte de douleur quand leur fils a commencé cette vie terrible d'attentat et assassinat et comme ça. Et la voix de sa femme est toujours dans sa tête. Il se souvient toujours de ce qu'elle faisait, ce qu'elle disait. Et il y a un moment dans lequel, pendant que je lisais le livre de Yannick, je me suis souvenue de cette phrase que Emilia disait à Paolo, c'est-à-dire « Ah, Paolo, il ne faut pas toujours trouver un sens dans toutes les choses. » Et parce qu'il y a aussi la vie réelle. Et le voyage que mes personnages font dans cette île, en effet, l'île est vraiment le personnage le plus important, le protagoniste, je dirais. Le voyage qu'ils font, ils viennent tous, chacun dans sa façon, différente et unique, et individuelle. Ils viennent de douleurs tellement fortes et de traumatisations tellement fortes qu'ils se sont dû, comme tout le monde fait, réfugier dans des abstractions. Paolo, il se réfugie dans l'abstraction de la pensée, extrémisée. Il est très intelligent et très cultivé, donc c'est très facile pour lui. Luisa, elle se réfugie dans l'abstraction de compter n'importe quoi. Tout ce qu'elle voit, elle compte, comme pour le ordonner, le régler, le contrôler. Et Niti Pierfrancesco, qui souffre peut-être la pire traumatisation, parce que c'est la traumatisation pas de la victime, mais de l'agresseur, c'est-à-dire le traumatisme d'une agente carcérale qui, pour son métier, il doit faire un métier impossible, pas humain, qui personne ne devrait faire, et que personne ne peut faire en restant humain. Il n'est pas plus humain, mais il était humain. Donc, il a un déchirement. Un déchirement. Et alors, tous les trois, ils ont, et lui aussi, il s'est réfugié dans cette totale absence de mots. L'abstraction de la pas-communication, de la non-communication. Et le voyage qu'ils font dans cette île, qui est en même temps terrible, parce que c'est un carcel, c'est une prison, la plus terrible qu'il y a en Italie. Et c'est un fait historique. Dans les années 70, c'était comme ça. Les carcels de maximum sécurité étaient très, très, très durs. Mais d'autre côté, c'est une île de beauté naturelle extrême et évidente. C'est simple. C'est simple. Et c'est pour ça que dans le livre, bien que l'île, en effet, soit l'île de La Zinara, c'est une île vraie qui existe. Effectivement au large de Sardaigne. Mais dans le livre, je n'ai pas donné le nom, c'est l'île avec la I majuscule, parce que les noms dans l'île ne sont plus tellement importants, les mots ne sont plus tellement importants. Cette extrême recherche de signification, ce n'est pas tellement important, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours important, mais là, ce n'est pas important. Et c'est une façon, peut-être la façon, de récupérer une solidité, un rapport avec la vie concrète après et dans laquelle on peut de nouveau rechercher les significations, mais pas sens, la réalité.
Yannick Enel.
Oui, c'est ce que moi j'ai trouvé le livre de Francesca Melandri merveilleux, enfin,
Merci.
À la fois d'une très grande force politique. Et surtout, ce qui me frappe, c'est la dimension poétique. Vous parlez de la vie réelle, effectivement, la vie réelle, c'est-à-dire les rapports de force, c'est-à-dire la violence sociale, est au cœur de votre livre. Mais moi, je pense que la vie réelle, c'est aussi la poésie, c'est-à-dire l'accès à la poésie, le fait qu'on ne soit pas fermé et enfermé par les conditions qui nous sont imposées. Et il y a tout au long du livre l'odeur. L'odeur épicée de cette île, une odeur quasi...
C'est la première phrase même, hein, oui. C'est l'incipit. L'air épicé, ça non, il ne s'y attendait pas.
Et Paolo...
c'est l'incipit.
Paolo est même scandalisé par cette beauté. Cette beauté paraît cruelle. Je peux lire deux phrases de ce livre de Francesca.
Merci beaucoup.
Dans une crique abritée, un petit môle s'avançait devant un groupe de maisons basses aux teintes joyeuses, vert pâle, bleu ciel, rose. Au milieu poussaient des agaves, des bougainvilliers, des figuiers. Rien ne faisait penser à une prison. C'est pour moi le... Alors là, je vais faire une idée générale.
On est écrivain peut-être. Après
oui.
tout. Hein.
mais c'est comme si c'était le destin de l'Italie qui était figuré là, dans ce contraste presque fou, cruel, comme vous le dites, scandaleux, entre la beauté sensorielle, sensuelle, et ce qu'il en est réellement. C'est-à-dire que c'est une prison qui est décrite comme un lieu merveilleux. Et on a là le déchirement, vous utiliez ce mot tout à l'heure, le déchirement qui, j'imagine, habite les Italiens et qui, moi, pour y avoir séjourné seulement 3-4 ans, m'a habité aussi. Cette scène-là, dans le livre, est très, très parlante, enfin, poétique et politique en même temps.
Oh, merci beaucoup et je suis aussi d'accord sur ce que vous disiez des Italiens. Avec un tout petit morceau en plus, c'est-à-dire moi, comme je suis née à Rome et j'ai vécu à Rome les premières 25 années de ma vie, puis j'ai voyagé, je suis allée ailleurs et puis je suis retournée il y a presque 10 ans. Et je ne m'habitue pas, je ne suis pas habituée, je n'arrive pas à m'habituer à la beauté de ma ville et de mon pays. J'arrive pas à m'habituer et je ne suis pas la seule. Ce n'est pas parce que j'ai cette sensibilité poétique extrême. Non, je suis une normale italienne et tous mes amis, tous les gens qui connaissent, plus ou tard, ont dit « Mais dans quel pays est-ce qu'on habite ?» On voyage, on prend l'autostrade et on voit un petit... On n'y croit pas. C'est si belle. Mais en même temps, c'est décadent et tout. Et politiquement dévasté. Et
violent.
Et violente. Et la lutte politique depuis les années... comme si c'était encore les années 70. Maintenant, on n'utilise plus les fossiles, mais c'est toujours, disons, on a un peu un problème avec la démocratie. On a un problème avec l'idée que c'est les mots qui font la politique, ce n'est pas les armes, ce n'est pas la violence. On y arrive, mais presque. Il y a toujours à se ressouvenir de cette idée que la politique se fait avec les mots et pas avec l'extrémisme.
Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura.
Viva l'Italia par Francesco De Gregori, qui était un chanteur de ces années-là, des années 70, des années de plomb. Et je me souviens d'un article signé du spécialiste de l'Italie, Marc Lazare, il y a 3 ans, disant sous la crise, le spectre des années de plomb, donc de cette violence qui ne cesse de ressurgir en Italie. Mais c'est pas sur la violence que j'aimerais terminer cette rencontre entre vous deux, Yannick Enel et Francesca Melandri. C'est sur les mots et les choses que vous avez commencé d'évoquer, Francesca Melandri. C'est la différence, effectivement, dans le roman dont parle Paolo, entre le mot et la chose, entre vivre et dire. Et ça rejoint ce que vous dites à un moment, ce que vous écrivez, Yannick Enel, sur la force de la littérature. Vous écrivez: la littérature veille sur un secret, la parole prend la place des démons. Elle ne les chasse pas, mais avec un peu de chance, elle les retourne. Si les phrases sont disposées avec justesse, selon le rite qui leur convient, elles ouvrent des portes. Et c'est magnifique comme elles peuvent ouvrir des portes dans un roman qui finalement est assez silencieux, celui de Francesca Melandri. Il est fait de non-dits, tout est montré en filigrane. Alors voilà, je voudrais terminer sur cette force de la littérature avec vous deux, Yannick Enel.
Je crois que dans le roman de Francesca, ça paraît absolument clair. Enfin, il s'agit vraiment d'abattre des frontières, en l'occurrence puisque les gens sont en prison. Et même ceux qui viennent les visiter sont eux aussi en prison. Moi, je pense que la littérature, elle est fondée... qu'on la pense ou qu'on ne la pense pas, de toute manière, elle nous pense, la littérature, et elle est fondée sur quelque chose. C'est Kafka qui disait ça, que tout son effort pour écrire visait à trouver cette terre entre solitude et communauté, mm-hmm. parce que la véritable frontière est là, en fait. Et je crois que la littérature, c'est une possibilité pour essayer de trouver cette terre, là, entre solitude et communauté.
Eh bien, merci beaucoup, Yannick Enel. Je cherche l'Italie, c'est votre récit paru dans la collection L'Infini chez Gallimard. Merci beaucoup à vous, Francesca Melandri.
Merci.
Plus haut que la mer, c'est votre très beau roman, traduit, très bien traduit, me disiez-vous, puisque vous parlez aussi bien français, par Daniel Valin, et qui est paru dans la collection Du Monde Entier.